9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Je reçois ce matin Brice Teinturier, le directeur d'Ipsos, pour son enquête annuelle sur les fractures françaises. Il va nous dire quel est le climat de l'opinion à quelques mois de la présidentielle. Et puis le plus célèbre cabaret du monde, le Moulin Rouge, l'un des symboles de la France à l'étranger, a rouvert ses portes hier soir après 18 mois de fermeture dû au Covid-19. Jean-Victor Cléricault, son directeur, sera bientôt dans ce studio. Mais d'abord, le procès des attentats du 13 novembre qui s'est ouvert mercredi, et la veille, par coïncidence, une audience préliminaire du procès des organisateurs des attentats du 11 septembre était prévue à Guantanamo. Les deux procédures judiciaires n'ont pas grand-chose en commun, comme on va le voir avec mon premier invité, Driss Aït Youssef.
Europe 1.
Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialisé dans les questions de sécurité et de terrorisme. Dont au procès des attentats du 13 novembre, 14 accusés comparaissent, 6 seront jugés par défaut, 12 encourent la perpétuité, dont Salah Abdeslam, le seul membre des commandos encore en vie. Au même moment, une audience préliminaire a été ajournée, une fois encore, au procès des 5 hommes accusés d'avoir planifié les attentats du 11 septembre, dont Khalid Sheikh Mohamed, considéré comme le cerveau des attentats. Ils encourent la peine de mort et cela fait 9 ans que se déroulent des audiences préliminaires. Et c'est à Guantanamo qu'elles ont lieu, pas devant un tribunal de New York. Hein. Il est intéressant de comparer les deux procédures judiciaires. On a l'impression que les Français et les Américains ont fait des choix totalement opposés.
Oui, c'est des choix totalement opposés depuis le début. On se souvient encore des attentats du 11 septembre et de la réplique militaire des États-Unis extrêmement forte derrière, qui, de mon point de vue, était davantage animée par un esprit de vengeance, à raison d'ailleurs, contre cette organisation terroriste et son leader Oussama Ben Laden, et qui a ensuite conduit les États-Unis à prendre une série d'initiatives contre ceux qui ont participé, commandité, organisé ces attentats au travers effectivement d'une juridiction militaire et d'une forme en tout cas très exceptionnelle de modalité de détention et d'interrogatoire qui relève à mon avis d'une justice, même pas d'une justice d'exception, mais de quelque chose qui est plutôt assez extraordinaire pour une démocratie.
En France, le procès commence 6 ans après les faits. Côté américain, les victimes attendent depuis 20 ans le procès des assassins du 11 septembre. Salah Abdeslam, chez nous, s'est plaint d'être traité comme un chien, mais Khalid Sheikh Mohamed est détenu sans procès depuis 18 ans. Hein. D'abord dans des prisons fantômes de la CIA, hors du territoire américain, puis il a été transféré à Guantanamo en 2006, où il a été torturé. Le directeur de la CIA l'a reconnu.
Oui, Khalid Sheikh Mohamed, qui se considère lui-même comme le cerveau des attentats du 11 septembre, a été appréhendé en 2003. Il a ensuite fait plusieurs prisons secrètes des États-Unis. Alors pourquoi des prisons secrètes de la CIA, pardon, puisque la CIA ne pratique pas officiellement la torture et que c'était une activité qui était sous-traitée à d'autres services de renseignement, notamment en Pologne, en Afrique, en Égypte, etc. etc. Et donc c'est en 2006, donc 3 ans après son interpellation musclée au Pakistan, qu'il a avoué être le cerveau des attentats du 11 septembre. Donc la question aujourd'hui qui se pose d'ailleurs, y compris devant cette juridiction militaire, c'est est-ce que les aveux qu'il a donnés, est-ce qu'elles ont été extorquées sous la torture? Je rappelle qu'il a fait l'objet de 183 waterboarding, ce sont ces actes de torture au travers d'une serviette, ces simulacres de simulation de noyade. Et on peut évidemment se poser la question de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. D'autant plus que les informations qu'il a communiquées lors de ces actes de torture se sont pour la plupart révélées de fausses. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de dire qu'est-ce que ça vaut ces actes de waterboarding, ces actes de torture sur des déclarations de ce prévenu.
Oui, c'est-à-dire que toutes ces déclarations, ces aveux n'auraient aucune valeur devant un tribunal civil, hein, comme le nôtre justement, comme celui qui s'exerce aujourd'hui dans l'ancien palais de justice. C'est peut-être aussi pour ça que tout ça est jugé devant un tribunal militaire à Guantanamo.
Oui, parce que vous avez la morale et le droit. Vous avez ce que je rappelais tout à l'heure, la morale. Est-ce qu'une grande démocratie comme les États-Unis peut pratiquer des actes de torture? Et puis ensuite, vous avez le droit, effectivement, le droit, on ne peut pas, à un moment donné, devant un tribunal ou se présumé terroriste bénéficie quand même d'une défense, donc d'un avocat, à un moment donné, avoir des accusations aussi fortes avec des moyens dont on a... C'est pas de la coopération. Et y compris, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que les informations qu'il a données, ces informations vraies lorsqu'il a été interpellé en 2003, n'ont pas été données sous des actes de torture. Et tout ce qu'il a dit ensuite lorsqu'il a été torturé se sont révélées les informations fausses. Donc on voit bien que c'est différent si vous demandez à un individu de coopérer ou si vous lui demandez de donner des informations sous des actes de torture. Pourquoi ? Parce que la torture, vous avez toujours un parti pris lorsque vous torturez un individu. Vous avez envie d'entendre des choses. Et lorsque l'information que vous livre l'individu n'est pas bonne, bah vous recommencez. Et je rappelle que c'est 183 opérations de waterboarding en un peu moins de 4 semaines. Donc c'est dire à un moment donné, j'ai envie de dire la violence, je ne vais pas plaindre l'individu, mais c'est dire à un moment donné qu'une grande démocratie, lorsqu'elle prévoit à un moment donné de juger des individus comme ça, elle doit s'entourer d'un luxe de précaution pour que sa procédure judiciaire, ce qui a été le cas en France d'ailleurs, soit inattaquable. Et ce qui se passe depuis le début de ce procès aux États-Unis, c'est qu'on est sur des questions de procédure, mettant ainsi en difficulté le gouvernement américain, puisque la défense de Khaled Sheikh Mohammed demande au gouvernement de déclassifier des informations qui démontrent qu'à un moment donné, ces informations ont été extorquées avec des actes de torture et qu'elles sont pour la plupart fausses.
Alors, depuis son incarcération en France, Salah Abdeslam est à l'isolement, vidéosurveillance 24 heures sur 24. Chaque fois qu'il vient à l'ancien palais de justice où s'est ouvert le procès cette semaine, il est fouillé au corps, mais il n'a pas été torturé. Ses droits sont respectés, comme ceux de n'importe quel accusé. La France a choisi d'organiser un procès qui se veut équitable. Ça veut dire que les accusés disposent de tous les moyens pour se défendre. Or, depuis le premier jour du procès, on a entendu beaucoup chez les commentateurs parler de provocation de la part de Salah Abdeslam. Mais il va falloir s'y habituer parce que c'est le prix justement à payer pour un vrai procès.
Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où on donne la possibilité à un présumé terroriste de s'expliquer, on lui donne les moyens et donc c'est ce qu'on appelle les droits de la défense. Et Salah Abdeslam bénéficie depuis le début de l'assistance d'avocats commis d'office, donc il ne paye pas, il en a deux. Je rappelle que les autres prévenus, les 14, ont aussi bénéficié aussi d'une assistance, au détriment d'ailleurs des avocats des parties civiles, puisque on voit bien que ce n'est pas une grande salle gigantesque au regard de l'ampleur de ce procès, mais il faut aussi à un moment donné faire des choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des avocats plus d'avocats de parties civiles dans la salle d'audience ou plus d'avocats avec les moyens qui sont ceux de la justice, qui ne sont pas non plus exceptionnels sur le plan financier. Et puis après, vous avez l'individu en lui-même et qui est dans une forme de provocation. Et plus que ça, qui est dans une forme de violence à l'égard des parties civiles, puisqu'on a bien vu au deuxième jour du procès, le deuxième jour, il était dans une forme de provocation en disant au président du tribunal, mais finalement, est-ce que les victimes syriennes et autres pourraient à un moment donné aussi participer, etc., etc. On est dans une forme de violence à l'égard des parties civiles, et il faut s'attendre à ce que ce procès soit aussi dur pour les parties civiles, comme c'est le cas depuis de nombreuses années pour eux. Ça va être peut-être encore plus difficile d'un individu qui non seulement ne veut pas répondre aux questions que va lui poser, j'espère qu'il répondra, mais qui n'a pas l'air de vouloir répondre aux questions posées par le président et qui va être plus que ça dans une forme de provocation à l'égard de la cour d'assises spécialement constituée.
Un procès, c'est pas une thérapie de groupe, hein, c'est ma vérité contre la tienne.
Oui, c'est ma vérité contre la tienne à partir du moment où le procès se passe globalement bien. Vous avez d'un côté l'accusation et de l'autre côté vous avez la défense, vous avez également les parties civiles. Donc ça, c'est quand le procès se passe bien. Là, on est quand même sur un procès qui est un procès, c'est vrai, extrêmement complexe, avec beaucoup de parties civiles, à qui il faut pouvoir, un, sélectionner, ensuite donner la parole, et ensuite d'avoir, d'une certaine manière, des individus. Alors, il n'est pas le seul dans le box des accusés, mais il figure comme étant le principal, à un moment donné, le rescapé de ses commandos, et il doit participer. Et à partir du moment où il ne décide non seulement de ne pas participer, mais au contraire d'être dans une forme de provocation, on peut arriver à une situation de blocage de ce procès et puis avoir à un moment donné des situations très tendues, des situations bloquées pendant ce procès.
On fait une pause, Driss Aït Youssef, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On continue de faire la comparaison entre le procès des attentats du 13 novembre et le procès des organisateurs des attentats du 11 septembre qui a failli ouvrir, dont l'audience préliminaire plus exactement a été encore une fois ajournée à Guantanamo Bay cette semaine. Alors parlons des droits de la défense. Les accusés du 13 novembre ont eu recours à des avocats tout de suite, hein, pas les accusés du 11 septembre. La Défense réclame en plus des quantités de documents. Vous l'avez dit, classés top secret, que le gouvernement américain refuse de leur fournir. D'autres différences, Driss Aït Youssef ?
Ah ben, il y a quand même une différence assez notable. C'est que le procès des attentats du 13 novembre se déroule en France. Il y avait le choix, puisque dans un palais de justice. Et il y avait un choix à un moment donné qui avait été, enfin une question qui s'était posée, de savoir est-ce qu'il fallait une grande salle, est-ce qu'on prend une salle des expositions, est-ce qu'on prend, comme ça a déjà été le cas, dans un certain nombre de grands procès en France.
Qui n'est pas une salle normalement dévolue à la justice.
Exactement, mais le choix a été fait de faire ça dans une salle du palais de justice. Alors c'est la salle des pas perdus, c'est un grand espace, mais au sein de l'ancien palais de justice. Le procès des attentats du 11 septembre n'a pas lieu aux États-Unis, il a lieu à Guantanamo Bay, c'est pas les États-Unis. Donc déjà, c'est quand même une première différence. La deuxième différence, évidemment, c'est un tribunal militaire. C'est-à-dire qu'on est dans un régime d'exception. Ce n'est pas aux États-Unis, ça donne des droits très particuliers, puisque un tribunal militaire, paradoxalement, cher Khaled moi-même, ce n'est pas un soldat, c'est un présumé terroriste, mais il n'est pas soldat. Donc on se pose la question finalement de ce que fait cet individu devant un tribunal militaire, ce qui n'est pas assez classique. Puis après, vous avez les droits de la défense. L'avocat de Cheikh Khaled Mohamed, un premier a démissionné, le second a été nommé par l'administration, par l'armée. Alors que là, ils ont la capacité de choisir leurs avocats, des avocats sont commis d'office. On est sur deux régimes, ils ont accès à toute la procédure, ils peuvent la lire, enfin ils sont dans des conditions de détention. Depuis le début, ils ont le droit de garder le silence, ce que Abdeslam a fait depuis le début, c'est Abdeslam a gardé le silence, pas pour autant qu'il ait été torturé. Donc on est quand même dans deux régimes, dans deux modalités, dans deux instructions qui sont totalement différentes.
Sachant que chez nous, c'est un tribunal civil, même si les accusés vont être jugés par des magistrats spécialisés. Il n'y a pas de jury.
Non, alors il n'y a pas de jury. C'est comme ça dans un certain nombre de dossiers, notamment dans des dossiers de grande délinquance, de mafia, etc. On a plutôt recours à des cours d'assises avec des jurys professionnels, parce qu'il y a quand même aussi un risque sur eux. Il faut qu'ils soient protégés des professionnels. Et là, c'est le cas, effectivement, pour les affaires de terrorisme où on a à chaque fois une cour d'assises. Alors, on n'est pas dans un tribunal, c'est une cour d'assises qui est spécialement constituée avec des magistrats professionnels. Les représentants du parquet national antiterroriste, sont trois, donc c'est quand même un procès qui est quand même un procès hors norme.
Revenons à Guantanamo, on est 20 ans après les faits, ça fait 9 ans qu'il y a des audiences préliminaires qui sont ajournées. En fait, ce procès ne commence pas, peut-être même n'aura-t-il jamais lieu, et les victimes là-bas se plaignent. Elles attendent depuis 20 ans le procès des assassins du 11 septembre.
Oui, elles attendent en vain, et la première difficulté, nous l'avons soulevée au début, c'est que rien n'a été fait normalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé les arrestations, on n'a pas pensé à un procès derrière. Les États-Unis ont plutôt été guidés par une espèce de logique de vengeance ou de représailles plutôt que de faire justice à des victimes américaines.
Ou de déjouer des futurs attentats éventuels aussi, d'où les interrogatoires.
Absolument, et de démantèlement, on était sur une logique purement extrêmement militaire. Et du coup, depuis le début, on est sur des problématiques de procédure, à savoir, est-ce que les aveux qui ont été extorqués sous des actes d'autorité, est-ce que ça vaut quelque chose ? Est-ce que l'individu bénéficie de tous ses droits ? Est-ce qu'il a accès à toute la procédure, à tous les documents ? Et donc, on bute sur des questions essentiellement procédurales. Et donc, depuis maintenant quelques années, on a des présidents qui se succèdent à la tête de ce tribunal militaire, et celui qui est là actuellement n'ira pas jusqu'au terme de ce procès, mais il a cette volonté d'aller, de faire accélérer les choses. Il y a quelques années, une tentative de négociation entre l'avocat de Khaled Cheikh Mohamed et le tribunal militaire pour essayer d'aller vite et d'essayer de commuer ce que risquait cet individu, c'est-à-dire la peine de mort, à une peine à la prison à vie, quoi. Donc ça n'a pas été plus loin que ça, parce que c'est aussi un affront pour les victimes qui veulent aussi un procès. Mais là, les victimes ne participent pas au procès à Guantanamo. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Ce procès est extrêmement compliqué. La différence de ce procès qui est en train de se dérouler ici en France, chez nous, c'est un procès très bien organisé, où il n'y a pas de problématique au moment où on se parle de procédure.
Merci Driss Aït Youssef. On se retrouve dans un instant avec Brice Taturier. On va parler des fractures françaises.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos qui rend, comme chaque année depuis 2013, son enquête sur les fractures françaises pour le journal Le Monde, ce qui vous permet de comparer le climat de l'opinion aujourd'hui, à moins d'un an de l'élection présidentielle, à ce qu'il était plus exactement, il y a 5 ans, juste avant la victoire d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez été surpris ?
Non, je n'ai pas été extrêmement surpris. Ça m'a plutôt confirmé sur un certain nombre d'éléments qu'on commençait déjà à voir depuis les régionales. Notamment le fait que la crise du politique, la défiance, la crise à l'égard des responsables politiques ne va pas en s'accroissant, mais plutôt un peu en s'améliorant. Alors il faut bien dire que les niveaux restent toujours très mauvais. Nos concitoyens ont une mauvaise image des partis politiques, des responsables politiques, etc. Mais elle est moins mauvaise qu'il y a 5 ans. Et ce sont des hausses souvent, même assez importantes. Donc il faut arrêter de dire que la défiance politique s'accroît. Elle s'est plutôt stabilisée, elle a plutôt un peu diminué.
Et c'est vrai pour tous les politiques, c'est vrai pour tous les élus
C'est vrai pour tous, ça concerne l'ensemble des responsables politiques. Et si vous prenez d'autres indicateurs aussi que simplement la confiance à l'égard de ces catégories-là, c'est plutôt des indicateurs qui s'améliorent, notamment sur le sentiment d'être bien ou mal représenté, sur le sentiment que la plupart des hommes et des femmes politiques seraient ou non corrompus. Encore une fois, les niveaux restent mauvais, mais la tendance est plutôt à une amélioration des choses. Et je crois que c'est important parce que la doxa ambiante, depuis plusieurs années, ne cesse d'insister que sur la dimension négative. Et elle est réelle, elle existe encore une fois, mais la relation négative des Français au système politique.
De même, la perception du clivage gauche-droite se redresse. De 24% en 2019, c'est passé à 38%.
Oui, alors quand on fait mon métier, en réalité, on a toujours vu et su que le clivage gauche-droite n'avait pas disparu parce qu'il reste extraordinairement explicatif de beaucoup de différences d'opinion selon que vous êtes un sympathisant de gauche ou un sympathisant de droite. Il s'est affaibli, ce clivage. Malgré tout, il s'est quand même affaibli, il n'a pas disparu, je l'ai toujours dit, il n'a pas disparu, il s'est affaibli. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aux yeux des Français, il semble reprendre de la vigueur. On a plus de Français aujourd'hui qui nous disent que eh bien, la gauche et la droite, ce n'est pas pareil, et moins de Français, même s'ils restent majoritaires, qui considèrent que ce clivage est devenu obsolète.
Autre constat, les inquiétudes que vous qualifiez d'identitaires n'ont pas augmenté. Le sentiment que la France est en déclin, par exemple, a baissé. L'idée que l'on ne se sent plus chez soi...
C'est stable.
Le sentiment qu'il y a trop d'étrangers...
Stable aussi.
Qui ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer.
Tout à fait. Là, globalement, sur tous ces indicateurs, que ce soit la demande d'autorité, le rapport à l'autre, la défiance, le sentiment qu'on ne serait plus chez soi en France ou qu'il y aurait trop d'étrangers, ce qui est très frappant par rapport à 2015-2016, c'est que sur ce registre-là, les choses sont plutôt stables. Donc là aussi, ça ne va pas dans le sens d'une poussée des crispations identitaires ou d'une poussée du rejet. C'est stable à un niveau élevé, il faut pas nier l'importance de ces dimensions pour les Français, mais ça ne s'amplifie pas par rapport à 2015-2016, dont on voit du coup que c'était probablement le climax du rejet, de la défiance, des crispations. On était vraiment dans un moment là très particulier, c'était un moment aussi qui suivait les attentats terroristes, c'était un moment où le quinquennat de François Hollande était particulièrement critiqué. Là, les choses sont soit stables, soit plutôt un peu en amélioration.
L'idée que la religion musulmane cherche en France à imposer son mode de fonctionnement ?
Alors ça, en revanche, on voit bien que même si les indicateurs sur les étrangers sont globalement stables, l'inquiétude à propos de la religion musulmane, de sa compatibilité avec les valeurs de la société française, etc. Et surtout, dès que vous vous mettez à parler de l'islam politique... Là, il y a quand même une inquiétude spécifique et qui a tendance à s'accroître.
Et le sentiment que l'islam porte malgré tout en lui des germes de violence et d'intolérance, ça a carrément monté
oui,
depuis 2015.
Tout à fait. Sur cet indicateur, et c'est celui-là que j'avais à l'esprit il y a un instant, le sentiment qu'ont les Français qu'il y aurait un lien intrinsèque entre l'islam et la violence, que ce ne serait pas l'islam politique et un détournement de ce que serait la religion musulmane intrinsèquement, eh bien ce sentiment qu'il y a un lien donc, qui tire vers la violence, lui, il s'accroît.
Alors en matière économique et sociale aussi, on apprend beaucoup de choses. Le fait que la mondialisation est une menace pour beaucoup de Français, ça reste stable
oui,
depuis 2016.
Oui, c'est pas nouveau, mais pour le coup, on est quand même aujourd'hui à un point extrêmement élevé. qui rejoint cette demande de protection qui apparaît aussi dans cette enquête et dans bien d'autres indicateurs. Les Français n'ont jamais été très en faveur, en réalité, d'un monde très ouvert, de la mondialisation, etc. Mais là, on renoue avec les niveaux les plus élevés de défiance à l'égard ou de rejet, de défiance à l'égard de la mondialisation, ou de rejet, ou de demande de protection.
La demande de protection, ça va jusqu'au protectionnisme ?
Pour une partie des Français, oui, ça va vraiment jusqu'au protectionnisme, sur l'idée qu'il faut soit fermer les frontières et produire beaucoup plus local, soit monter des droits de douane pour les produits extérieurs. C'est en tous les cas quelque chose qu'on n'avait pas à ce point il
oui,
y a 5
ans. Oui, c'est un record historique, là. Hein.
Oui, là, on est plutôt sur les plus hauts niveaux. Et puis, il y a ce sentiment, mais la pandémie est passée par là, qu'il faut vraiment produire localement, qu'on ne peut pas être, les Français l'ont découvert aussi de manière encore plus aiguë, qu'on ne peut pas être à ce point dépendant de la production de certains biens de l'étranger. Donc le sentiment, c'est quand même qu'il faut produire français plus que jamais.
Brice Taturier, ne bougez pas, on reprend notre entretien juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le directeur de l'Ipsos, Brice Taturier. L'Ipsos qui rend, comme chaque année depuis 2013, son enquête sur les fractures françaises. La protection sociale, là aussi le rapport des Français à leur protection sociale, est-ce que ça a évolué depuis 2016? Puisque je rappelle, on prend ça, c'était juste avant les élections présidentielles et 5 ans plus tard, nous sommes là encore juste avant les élections présidentielles. Est-ce que les Français ont changé?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'avenir du système de protection sociale remonte dans les préoccupations. Elle a toujours été relativement élevée, mais elle avait été éclipsée dernièrement plutôt par les enjeux de délinquance, d'immigration aussi qui était remontée. L'environnement est très fort et on le voit à nouveau dans cette enquête. Mais d'une manière générale, les sujets économiques et sociaux reprennent de la place par rapport aux sujets strictement régalien ou identitaire selon la façon dont on les qualifie.
C'est le mouvement des Gilets jaunes, à votre avis, qui a joué là-dessus ?
Non, je crois que c'est pas simplement le mouvement des Gilets jaunes, que c'est beaucoup plus le sentiment que le socle de la société française, il est autour de ça, qu'il y a un attachement et une demande de protection, encore une fois. L'expérience qu'ont faite les Français au cours des dernières années, c'est une expérience de vulnérabilité accrue. Vulnérabilité face au terrorisme, tout d'abord, menace de mort. Vulnérabilité face à la pandémie, là aussi, menace de mort réelle ou économique. Et du coup, cela génère ces demandes de protection. Eh bien, le système, il porte bien son nom, c'est un système de protection sociale et tout ce qui peut permettre aux individus d'atténuer la brutalité du monde, ils ont quand même le sentiment de vivre dans un monde menaçant, brutal, multi-menaçant maintenant. Il n'y a pas que le chômage qui est la préoccupation, il y a beaucoup d'inquiétudes. Tout ce qui peut donc atténuer ces menaces est pour les Français extrêmement précieux et donc la protection sociale en fait partie.
Est-ce qu'il y a l'envie de plus de solidarité ?
Les Français sont très partagés et c'est assez ambigu sur cette notion. La critique de ce que on appelle ou ce que certains appellent l'assistanat, elle est très forte et elle est très poreuse dans le pays. Vous avez effectivement une majorité de Français qui depuis longtemps ont l'idée, dénoncent l'idée qu'il y aurait trop d'assistanat, que des gens travailleraient et s'échineraient à travailler tandis que d'autres sans travailler auraient des revenus. Vous avez une majorité importante qui s'accroît de Français qui pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, ce qui est une manière quand même de dire que les chômeurs profitent et abusent du système. C'est partagé par environ 60% des Français, donc tout cela va dans le sens d'un accroissement de cette idée qu'il y a trop d'assistanat. Mais malgré tout, c'est tempéré, et on le voit dans cette édition, aussi par ce besoin de protection et le sentiment que la solidarité envers les gens qui en ont besoin, c'est ça le vrai sujet, c'est envers les gens qui en ont besoin, eh bien elle doit être renforcée. Donc on a là des attitudes plus ambivalentes. Les Français sont partagés entre la dénonciation de certains abus du système, de certaines injustices, parce que pour eux c'est aussi une injustice si quand ceux qui travaillent et s'échinent à travailler gagnent autant, voire moins que d'autres. Donc ils sont partagés entre d'un côté cette dimension-là, et puis d'un autre côté, le sentiment que non, on est dans un pays où il y a encore beaucoup d'inégalités et insuffisamment de solidarité.
Et le rapport aux inégalités, justement, a-t-il changé ?
Ce n'est pas ce qui apparaît dans le tableau des préoccupations en numéro 1, mais c'est parce que vous avez d'autres sujets qui sont en train de monter. Donc l'avenir de la protection sociale, l'environnement, l'insécurité, tout cela existe et à un niveau élevé. Si vous posez la question uniquement sur les inégalités, les Français vous disent qu'elles sont fortes et trop fortes et qu'il faut les réduire. Si vous mettez cette dimension en concurrence avec d'autres sujets, on a connu des époques où le niveau était bien plus élevé en termes de priorité autour des inégalités sociales. Donc là, ils sont préoccupés par des enjeux, on va dire, plus, je vais pas dire plus concrets, parce que c'est très concret les inégalités, mais sur lesquels ils ont le sentiment qu'il y a une urgence et une capacité d'action peut-être plus immédiate.
Vous dites au fond que le mécontentement l'emporte aujourd'hui sur la colère par rapport à 2016.
Oui, ça c'est quelque chose que j'ai également dit au moment des régionales. Je pense que le pays est moins en colère aujourd'hui, moins prêt à s'embraser qu'il ne l'était au moment des Gilets jaunes, par exemple, ou encore en 2015-2016. Ça ne veut pas dire que les Français seraient contents et béatement contents de la situation, pas du tout. Ils sont majoritairement mécontents. Mais c'est plus du mécontentement de l'opposition que quelque chose de très rageux. On a construit un indicateur sur cette question et on le voit bien. Le mécontentement l'emporte largement sur ceux qui ont le sentiment d'appartenir à une France en colère et qui voudraient contester bruyamment. Et tous les indicateurs vont un peu en ce sens malgré tout. Quand vous prenez l'image des partis politiques, vous voyez bien que la France Insoumise ou le RN, ce n'est pas aussi puissant justement que ce qu'on avait auparavant. Donc je pense que les Français qui ont été très bouleversés par ces dernières années et par la pandémie sont plutôt en attente d'une forme d'apaisement que prêts à ce que le pays s'embrase à nouveau ou à trouver une régulation des conflits d'intérêts par la violence, par la contestation bruyante ou par l'embrasement. C'est pas ça. Le moment est un peu plus à l'apaisement et une recherche un petit peu plus consensuelle de régulation des conflits.
Autre constat, 88% des personnes interrogées estiment que le changement climatique est une réalité, 68% qu'il est provoqué par l'activité humaine, seulement 18% pensent encore qu'il s'agit d'un phénomène naturel, puis 82% pensent que le gouvernement doit prendre des mesures rapides et énergiques.
Oui, ce qu'on voit très clairement dans cette enquête et dans d'autres, c'est d'abord que le sujet de l'environnement a pris une place maintenant depuis 2 ou 3 ans beaucoup plus importante, ça fait partie des toutes premières préoccupations, que la question de l'urgence climatique maintenant est de plus en plus prégnante, que les climato-sceptiques malgré tout pèsent, parce qu'il faut, c'est ceux qui ne sont pas dans les 68%, donc pèsent toujours une part non négligeable, hein, ceux qui considèrent que même s'il y a un réchauffement climatique, il n'est pas dû à l'activité humaine. Plus personne ou presque ne conteste qu'il y a un réchauffement climatique. Donc la vraie question, c'est sur ses causes. Donc on a encore quand même un peu de climato-sceptiques, mais l'immense majorité des Français pense le contraire, a bien conscience que c'est l'activité humaine aussi qui contribue au réchauffement climatique. Et ils sont, sur le papier, plus prêts à dire il faut changer nos modes de vie. On ne peut pas s'en remettre simplement à l'innovation.
55% quand même, oui, hein, oui. Qui pensent qu'il faut changer de mode de vie et pas attendre une révolution technique.
Exactement,
ou technologique ou scientifique.
Voilà. Comme certains disent que la solution peut venir uniquement de l'innovation, etc. On a cherché à comprendre ce que pensaient les Français là-dessus. En fait, non, ils nous disent que c'est quand même majoritairement des changements de mode de vie. Sauf que quand vous les interrogez ou vous regardez de plus près leur comportement et pas leurs attitudes, là, l'écart est quand même massif. Hein. Une fois que les Français vous ont parlé du tri sélectif des déchets, en réalité, ils sont très peu nombreux à véritablement être prêts à prendre plus de transports en commun et à renoncer à la voiture individuelle, parfois parce qu'ils y sont contraints objectivement, parfois aussi pour des raisons de confort. Or, la voiture individuelle, ça pèse beaucoup plus dans l'émission de gaz carboné que le tri sélectif des déchets.
Merci Brice Taturier d'être venu sur Europe 1 nous expliquer les résultats de votre enquête, réalisée donc pour le quotidien Le Monde, mais aussi pour le CEVIPOF et pour l'Institut Montaigne.
Et la Fondation Jean Jaurès.
Et la Fondation Jean Jaurès, pardonnez-moi, ou plutôt qu'elle me pardonne de l'avoir oublié. On fait une pause, on se retrouve juste après avec le directeur du Moulin Rouge qui vient de rouvrir ses porte hier soir après 18 mois de fermeture.
Cole. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Le temple du French Cancan a rouvert ses portes hier soir au bout d'un an et demi. Jean-Victor Cléricot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Moulin Rouge. Vous avez marché plus exactement sur les traces de votre père, Jean-Jacques, qui en est toujours le président, de votre grand-père, Jacky Cléricot, de votre arrière-grand-père, Joseph. On n'imagine pas qu'un tel symbole de la France est une entreprise à 100% familiale, et pourtant c'est le cas. Vous êtes la 4e génération. Un an et demi de fermeture pour cause de Covid-19, le temps a dû vous sembler long. Est-ce que vous avez craint à un moment de ne jamais pouvoir rouvrir ?
Oui, je pense comme beaucoup d'autres entreprises en France, on a eu des sueurs froides à un certain moment. C'est vrai que c'était très long, très triste, surtout de pouvoir toujours constater ce lieu qui d'habitude vit non-stop et vit tout le temps dans un cadre très festif avec beaucoup de convivialité et de le voir comme ça fermé pendant si longtemps, c'était vraiment très très dur à supporter.
Comment c'était hier soir? Il y a eu deux séances, comme tous les soirs, hein, 21h, 23h.
Alors on a rouvert hier soir, effectivement, pour accueillir nos premiers spectateurs. Ça a été une soirée formidable, beaucoup d'entrain, beaucoup d'ambiance dans la salle. Et les artistes étaient vraiment très très heureux de retrouver leur public.
Il vous a fallu 3 mois pour relancer la machine. Je crois que les premières répétitions ont repris à peu près le 15 juin. Pourquoi c'est si long?
D'abord parce qu'il fallait vraiment avoir une feuille de route claire pour pouvoir commencer cette réouverture. Et le travail de reprise, il a démarré avec d'abord faire revenir nos artistes, puisqu'on a 14 nationalités, avec un peu plus de 80 artistes. Donc il faut faire revenir d'abord toutes les équipes artistiques. Et une fois qu'elles sont revenues, après plus d'un an de fermeture, il fallait refaire toutes ces répétitions, ces remises en forme. Donc c'est ce qu'on a fait cet été pendant 3 mois, quasi quotidiennement. Et puis là, sur ces dernières semaines, des répétitions générales, tous les soirs, en conditions réelles. Tout ça était incompressible, donc il nous fallait vraiment ces 3 mois de remise en route.
Le Moulin Rouge, c'est 450 employés, il y a des costumiers, des bottiers, des plumassiers, des accessoiristes qui règnent, je crois, sur à peu près 1000 costumes. Est-ce que vous avez pu tous les retrouver?
Oui, tous les collaborateurs sont revenus dans le courant de l'été. Oui, effectivement, le Moulin Rouge, c'est beaucoup de diversité de métiers, de personnalités. On a intégré au sein du Moulin Rouge une multitude d'ateliers de savoir-faire, de métiers d'art qui sont indispensables pour une revue. Donc on est aujourd'hui complètement autonome sur ces types de spectacles-là. Et donc chaque corps de métier est revenu au fur et à mesure pour remettre en route ces ateliers et puis reprendre les 1000 costumes, les chaussures et tous les accessoires qu'il fallait renettoyer puis remettre en état. Après autant de temps de fermeture, forcément, il y avait un petit peu de choses abîmées.
Vous dites que les 80 artistes sont de 14 nationalités différentes. Les danseuses de French Cancan ne sont pas forcément françaises, comme on pourrait le croire. Beaucoup d'anglaises, beaucoup d'australiennes. Or, l'Australie a ses frontières fermées aujourd'hui. Ça a été un problème?
Ça a été plus compliqué pour l'Australie parce qu'effectivement, il fallait monter des dossiers administratifs pour expliquer aux autorités australiennes que ces personnes-là travaillaient vraiment en France et qu'elles ne faisaient pas juste un aller-retour pour le loisir. Donc il fallait vraiment montrer patte blanche pour les faire sortir du territoire.
Quand on dit le Moulin Rouge, c'est un nom qui est connu dans le monde entier.
Oui, évidemment, mais il fallait quand même passer par cette case-là administrative et ça a pris un peu plus de temps, mais finalement tout le monde est revenu. Il n'y a pas eu du tout de départ ou d'artistes qui n'ont pas pu rentrer en France.
C'est un sacré rythme à tenir et il va falloir que tous vos artistes s'y remettent rapidement. 2 spectacles par jour, du mercredi au dimanche, 21h, 23h. Là, pour l'instant, c'est seulement du jeudi au dimanche. Hein. Vous y allez
Oui, alors habituellement, on est ouvert tous les jours de l'année. Effectivement, 2 spectacles par soir. Là, pour redémarrer, on ouvre du jeudi au dimanche. Toujours 2 spectacles, évidemment. Donc, c'est une ouverture un peu partiel, on va dire, puisqu'on a un peu moins de 50% des dates qui sont possibles à la réservation. Mais donc, du coup, c'est un démarrage progressif.
Ferry, la revue qui est à l'affiche, c'est toujours la même depuis 1999. Elle a déjà été vue par 12 millions de spectateurs. C'est pas un problème de conserver la même revue à l'affiche pendant 20 ans quand on est le plus célèbre cabaret du monde?
Alors, effectivement, Ferry a été lancé en décembre 1999. Il faut savoir que la revue d'avant avait déjà duré plus de 10 ans aussi.
Ça fait 20 ans.
Là, ça fait 20 ans, oui. Non, mais on est sur des typologies de spectacles aujourd'hui qui correspondent un peu plus à ce qu'on peut voir au niveau des comédies musicales, à Broadway ou à West End à Londres, les grandes comédies musicales qui ont maintenant plus de 30 ans de scène. On est un peu dans cette logique-là. Et Ferry a toujours été en perpétuel renouvellement. On a toujours, modifié le spectacle de façon à ce qu'on puisse lui apporter toujours des choses nouvelles, tout simplement parce qu'on veut que le spectacle reste vraiment au top et surtout qu'on reste au standard de ce que nos spectateurs peuvent voir dans d'autres salles de spectacle.
La clientèle, justement, on dit qu'elle est 50% française, 50% étrangère avant la pandémie, en tout cas.
Oui, c'est à peu près ça.
C'était ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a surtout des Français.
Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup de Français qui retrouvent le chemin de notre salle. Hier soir, il y avait une majorité de Français, effectivement, dans la salle. Quelques étrangers aussi, malgré tout, parce que les Américains et les Anglais sont quand même de passage à Paris. Donc, on avait une salle un peu cosmopolite, mais majoritairement française. Ouais.
Toute la salle n'est pas utilisée?
Alors, on a volontairement, nous, on n'a pas de restriction de jauge pour redémarrer. On a volontairement réduit un petit peu la capacité d'accueil, tout simplement parce que dans l'esprit du cabaret, l'ADN du Moulin Rouge, on place les gens sur des tables. Donc, sur une table, on pouvait placer plusieurs réservations. Là, l'exercice est un peu plus compliqué puisqu'on va éviter de mettre plusieurs réservations sur une même table, tout simplement pour pas que les gens soient à côté de personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc mécaniquement, on va osciller entre les 500, 600 personnes qu'on va pouvoir accueillir en fonction des réservations.
On dit que la clientèle du Moulin Rouge a beaucoup rajeuni depuis le succès du film Moulin Rouge avec Nicole Kidman et Ewan McGregor qui est sorti d'ailleurs il y a 20 ans, c'est vrai ?
Oui, le film est sorti en même temps que la revue. Ça a donné un sacré coup de boost aussi pour le lancement de Ferry. Et ça a beaucoup rajeuni la clientèle du Moulin Rouge, tout simplement parce que les gens ont d'abord vu le film. Et puis le film est une histoire d'amour et que tout le monde aime ces histoires d'amour. Et finalement, les gens qui ont vu ce film se disent tiens, si on allait voir le vrai Moulin Rouge. Et donc ces jeunes personnes qui ont vu le film au cours des 10-15 dernières années maintenant se disent, allons voir ce que c'est vraiment le Moulin Rouge. Donc on a le retour.
Le film, déjà, ça n'avait pas grand rapport avec le vrai Moulin Rouge.
Non, parce qu'il se retranscrit dans l'époque, belle époque du Moulin Rouge. Donc on est vraiment...
Et une fausse belle époque, si je me souviens bien, avec des chansons.
Oui, c'est un peu remanié à la version Baz Luhrmann. Ouais.
Mais Jean-Victor Cléricault, vous avez grandi, vous, au Moulin Rouge. Vous y alliez déjà, enfant, à l'époque où sort le film. Vous ne deviez pas être très grand.
Oui, alors on a toujours grandi sous l'ombre des ailes du Moulin, si je peux le dire. Après, on a toujours, nous, personnellement, évolué en dehors du Moulin. On nous a toujours, si vous voulez, exprimé le fait que le Moulin Rouge était une roue de secours. Si un jour on avait besoin de venir travailler au Moulin Rouge, on trouverait une place pour autant qu'on ait les compétences d'y évoluer. Mais on est arrivé, que ce soit moi, aujourd'hui je travaille aussi.
On ne vous disait pas, tu me succéderas mon fils?
Non, pas du tout. Ma sœur qui travaille avec moi aujourd'hui et moi-même avons fait un parcours complètement différent avant. Et on est arrivé chacun à des moments différents dans la vie du Moulin, tout simplement pour des projets qui se présentaient à nous-mêmes au Moulin. Et c'est comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier.
Qu'est-ce qui vous fascine encore dans cet établissement? Vous y êtes pratiquement tous les jours?
On y est tous les jours, presque tous les soirs. On transpire vraiment pour le Moulin Rouge, on transpire pour le cabaret. C'est devenu vraiment une passion et vraiment maintenant, c'est moi, ça va faire maintenant plus de 13 ans que j'y suis. Et en réalité, je constate encore aujourd'hui que j'ai beaucoup de choses à apprendre.
Merci Jean-Victor Cléricault. Le Moulin Rouge est donc rouvert ce soir, deux séances, 21h, 23h. Et c'est comme ça... presque tous les jours, en tout cas du jeudi au dimanche, puis du mercredi au dimanche, à partir du mois d'octobre.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Et dans quelques instants, vous aurez Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Avec Catherine Ney, Gérard Carreau, Charles Villeneuve et Michel Cotta, nous parlerons de ce mutisme de Salah Abdeslam. La justice est-elle adaptée ou faut-il une justice exceptionnelle comme à Guantanamo? On parlera du livre d'Éric Zemmour. Quelles sont ses nouvelles propositions? Est-ce qu'il en apporte vraiment beaucoup dans ce nouveau livre? Et puis évidemment, nous évoquerons la mise en examen d'Agnès Buzyn, une ex-ministre de la Santé inculpée de mise en danger de la vie d'autrui. C'est une première. Est-ce le gouvernement des juges?
Bonne émission.
Merci.